Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous.
À la une ce soir, Alexei Navalny qui appelle à descendre dans la rue au lendemain de son retour en Russie. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, le président russe, a été condamné aujourd'hui à 30 jours de prison.
Aux États-Unis, Donald Trump, l'annonce attendue des grâces présidentielles. Ce sera l'une des dernières annonces du président sortant. Ceux qui en bénéficieront verront leur poursuite judiciaire annulée.
Enfin, la pandémie de coronavirus et la campagne de vaccination qui continue de s'accélérer. Gros plan sur Israël dans ce journal en français facile. Israël où les prisonniers, désormais, vont pouvoir se faire vacciner.
Le journal en français facile.
Alexei Navalny a été condamné à 30 jours de prison.
Oui, Alexei Navalny, c'est le premier opposant au président russe Vladimir Poutine. Il a fait son retour à Moscou hier, 5 mois après avoir été empoisonné à un puissant agent chimique, empoisonnement attribué à la Russie. Alors, dès son arrivée hier, et comme cela était attendu, Alexei Navalny a été arrêté par les autorités, car il ne s'était pas rendu à un contrôle judiciaire dans le cadre d'une peine que l'opposant dénonce. Et aujourd'hui, donc, Alexei Navalny a appris qu'il serait incarcéré, c'est-à-dire qu'il irait en prison, au moins jusqu'au 15 février. Sa peine a été prononcée par un tribunal situé dans le commissariat où se trouvait Alexei Navalny. Précision à Moscou de Daniel Valo.
30 jours de détention, c'est ce qu'avait demandé le parquet russe à l'issue d'une audience pour le moins surréaliste, puisque cette audience s'est déroulée dans un commissariat de la banlieue de Moscou. Ce tribunal improvisé et cette justice pour le moins expéditive ont déjà fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, où l'on brocarde ses tables et ses chaises poussées contre les murs et cette juge obligée de se déplacer en dehors de son tribunal pour se prononcer. La conséquence pour Alexei Navalny, c'est que l'opposant restera en prison jusqu'à la prochaine échéance judiciaire le concernant. Une décision qui sera lourde de conséquences, puisque la justice russe pourrait transformer en peine de prison ferme une peine avec sursis qui avait été prononcée contre l'opposant il y a plus de 5 ans. Une affaire montée de toutes pièces aux yeux des partisans d'Alexei Navalny, qui voit la volonté des autorités de l'écarter à l'approche des élections législatives. L'opposant, pour sa part, a demandé à ses concitoyens de descendre dans la rue pour dénoncer ce qu'il qualifie de parodie de justice. Une première grande manifestation pourrait être organisée dès la fin de la semaine. Ce sera un test sans doute décisif pour la suite du bras de fer qui va s'engager entre l'opposant et le Kremlin.
Et les condamnations se multiplient à l'étranger. Hein, c'était Daniel Valo depuis Moscou. Les condamnations se multiplient à l'étranger depuis l'arrestation d'Alexei Navalny. L'Union européenne, l'Allemagne, la France appelle à sa libération, de même que la future administration américaine de Joe Biden.
Et justement, Joe Biden qui sera investi président mercredi, ce sera à suivre en direct sur RFI. À 2 jours de cet événement, la capitale, Washington, est déjà quasiment bouclée.
Oui, alors on dit qu'une ville est bouclée quand elle est fermée au public. Et pour cause, la tension est très forte à l'approche de l'investiture du président américain. Surtout après les événements survenus en début d'année au Capitole. Hein. Souvenez-vous quand des centaines de partisans du sortant Donald Trump ont envahi ce Capitole. Des milliers de soldats sont déjà sur place. Ils seront jusqu'à 25 000 mercredi.
Et ce sont donc les derniers jours de pouvoir de Donald Trump. Et avant son départ de la Maison Blanche, il devrait annoncer les noms de ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle.
Oui, ce devrait être l'une de ses dernières annonces en tant que président. Cette grâce présidentielle est une tradition. Gracier, c'est annuler des poursuites judiciaires. Alors, ce qui fait polémique, en revanche, c'est le choix des personnes qui vont bénéficier de cette grâce, ainsi que les centaines de milliers de dollars qui sont en jeu. Explication Christophe Paget.
C'est un marché lucratif, selon le New York Times. Exemple, l'ancien procureur Brett Tolman, actuel conseiller de la Maison-Blanche sur ses grâces présidentielles, a récupéré des dizaines de milliers de dollars pour obtenir celle, entre autres, du fils d'un ancien sénateur de l'Arkansas et du fondateur d'une célèbre plateforme de vente de drogue sur Internet. Rudolph Giuliani, l'avocat personnel du président, aurait de son côté demandé, pour obtenir la grâce d'un ancien responsable de la CIA, 2 millions de dollars. Tout cela est légal tant que le président ne touche pas lui-même de l'argent, mais traditionnellement, les grâces sont utilisées pour récompenser des personnes méritantes et qui ont reconnu leur faute, explique le Washington Post, pas des amis ou des alliés politiques. C'est pourtant ce que Donald Trump a commencé à faire avant Noël, en graciant Charles Kushner, le père de son gendre, et plusieurs personnes impliquées dans le procès des éventuels liens de sa campagne de 2016 avec Moscou. La question se pose également de savoir si le président lui-même va se gracier. Après l'invasion du Capitole, note CNN sur son site, certains conseillers lui ont suggéré de ne pas le faire car cela donnerait l'impression qu'il est coupable de quelque chose. Conseil aussi d'éviter de gracier quiconque a participé à l'attaque du 6 janvier.
Christophe Pagé.
La pandémie de coronavirus et les campagnes de vaccination qui continuent de s'élargir dans le monde.
Oui, on va citer trois pays qui ont accéléré aujourd'hui leur campagne. La Russie, où jusque-là seuls les enseignants et les soignants pouvaient être vaccinés. La France, où depuis ce lundi, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner. Et puis le Royaume-Uni, où sont concernés tous ceux qui ont plus de 70 ans. Le Royaume-Uni, où il y a urgence, hein, le pays est frappé par un variant du virus jusqu'à 70% plus contagieux, selon les autorités sanitaires. Enfin, en Israël, dans les prochains jours, va débuter la vaccination des prisonniers. Alors c'est un sujet qui fait débat dans l'État hébreu, et notamment car sont concernés les 44 000 détenus palestiniens. Correspondance à Jérusalem de Sami Bourkhalifa.
Le bras de fer a duré plusieurs jours. D'un côté, le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, farouche opposant à la vaccination des prisonniers. Dans le camp adverse, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Chacun présente ses arguments. Pour le premier, la priorité en termes de vaccination va au personnel pénitentiaire. Une décision critiquée aussi bien par le procureur général israélien qui la juge illégale que par le président de l'État hébreu qui la considère comme incompatible avec les valeurs de son pays et du judaïsme. Le ministre de la Santé estime pour sa part qu'un prisonnier non vacciné atteint du Covid-19 coûterait cher à l'État. Il faut donc passer à l'action. La campagne de vaccination en milieu carcéral débute cette semaine. Pas de distinction entre détenus israéliens et détenus palestiniens. Les quelques 4400 prisonniers palestiniens recevront eux aussi le vaccin contre le coronavirus. L'ONG Human Rights Watch souhaite aller plus loin. Elle demande à l'État hébreu, en tant que puissance occupante, de fournir des vaccins à l'ensemble de la population palestinienne. Sami Bourkhalifa, Jérusalem, RFI.
Et le vaccin, objet de polémique, on estime aujourd'hui que 90% des doses de vaccins se trouvent dans seulement 11 pays du monde. Alors le patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, prévient que le monde fera face, je cite, à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparent, c'est-à-dire gardent, les vaccins au détriment des pays pauvres.
Et puis autre sujet polémique en France, l'ancienne mine de Stocamine.
Alors c'est un site situé en Alsace, dans l'est de la France, devenu site de stockage de déchets dangereux. Le débat est vif, surtout depuis 2002, quand un incendie s'est déclaré sur ce site. D'où la question, est-ce qu'il faut continuer à stocker ces déchets à Stocamine? Eh bien oui, a tranché le gouvernement. Explication Agnès Rougier.
L'ancienne mine de potasse se trouve à 550 mètres sous terre, sous la nappe phréatique alsacienne. Le site devait accueillir en 30 ans 320 000 tonnes de déchets industriels, en principe de manière réversible, mais après l'incendie de 2002 dû à la présence de mercure, l'enfouissement avait été interrompu. Depuis, les ministères de l'écologie successifs balancent entre l'évacuation des déchets déjà stockés et leur confinement définitif. En 2010, un rapport du Bureau des mines pointait un risque de pollution de la nappe phréatique qui pourrait rendre impropre l'eau à la consommation. En 2014, le gouvernement a tranché en faveur d'un scénario de retrait des déchets contenant du mercure et depuis, environ 2000 tonnes de mercure ont été déstockées. Mais la mine étant en train de s'effondrer, il fallait prendre une décision rapide. Et suite à sa visite du site le 5 janvier, la ministre de l'écologie Barbara Pompili vient de l'annoncer, les déchets déjà stockés seront définitivement enfouis avec des bouchons de béton et des galeries de contournement pour éviter que l'eau n'atteigne les déchets toxiques.
Et à noter une réaction après cette décision, celle du député du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger, co-auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet. Il fait part de sa déception après cette décision donc du gouvernement français concernant le site de Stockamine. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie.
Merci à vous Romain Ozouli.
Il est 21h10.
Et à Victor Hull.
Et oui, à la réalisation. 21h10 ici à Paris.